RFI Midi, toute l'actualité. Florent Guignard.
Mais c'est décidément un job qui suscite beaucoup de vocations. Le poste de Premier ministre au Royaume-Uni après la démission de Theresa May est éreinté par le Brexit. 11 prétendants sont sur les rangs, 11 candidats pro ou anti-Brexit d'ailleurs. C'est aujourd'hui le dépôt officiel des candidatures avant un vote des parlementaires et ensuite un vote des adhérents du Parti conservateur. Bonjour Pauline Schnapper. Vous êtes professeur de civilisation britannique contemporaine à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. 11 candidats, 9 hommes, 2 femmes pour succéder à Theresa May. Pourquoi y a-t-il autant de candidatures pour ce qui pourrait apparaître quand même comme l'un des postes les plus maudits au monde aujourd'hui ?
Eh oui, ben ce sont les mystères de l'ambition politique. Il y a apparemment beaucoup de gens qui pensent qu'ils pourraient faire mieux que Theresa May à son poste. Cela dit, il y a 11 candidats à l'heure où nous parlons. Il y en aura peut-être plus ce soir 11, puisque le parti a introduit une nouvelle règle qu'il faut qu'il y ait au moins 8 députés du parti qui soutiennent chaque candidat. Et donc, il n'est pas évident que les 11 obtiendront ces soutiens. On verra ça ce soir vers 18h30.
Alors, parmi ces 11 candidats pour l'instant, il y en a un qui se détache, Boris Johnson, le grand favori. Pourquoi lui ?
Ah, ça, c'est une bonne question. Il est très populaire au sein du parti, parmi les adhérents, peut-être d'ailleurs plus que parmi les députés conservateurs. Et aujourd'hui, il apparaît, à tort ou à raison, comme un rempart contre les ambitions de Nigel Farage et de son Brexit Party. Il y a beaucoup de conservateurs, donc même des députés qui ont peu de considération pour ses capacités politiques et diplomatiques, mais qui pensent quand même qu'il aurait de meilleures chances de sauver le parti et donc leur siège que d'autres candidats. Cela dit, ce n'est pas fait non plus. C'est certainement celui qui apparaît en meilleure position aujourd'hui, mais tant que ça n'est pas fait, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Il aurait tort de le faire, en tout cas.
Alors justement, on va s'arrêter sur ce processus électoral qui va être long et compliqué, qui se déroule en deux temps. D'abord, au Parlement, les députés conservateurs vont se livrer à une espèce de jeu de chaises musicales, puisqu'à la fin, il ne restera que deux candidats. Deux candidats qui ensuite seront départagés par les adhérents du Parti conservateur. Ce sera au mois de juillet. Est-ce que ce processus, d'abord les députés, ensuite la base, est-ce que ce processus favorise plutôt un ou plusieurs candidats ?
Alors, c'est difficile à dire. C'est un processus qui est en vigueur depuis quelques années seulement, qui consiste donc à faire voter d'abord successivement les députés sur les candidats et à éliminer à chaque fois celui qui obtient le moins bon résultat. Et donc, comme ça, de fil en aiguille, on se retrouve avec deux, qui donc, a priori, ont quand même le soutien du groupe parlementaire. Mais ensuite, donc, le dernier mot est donné aux adhérents qui, souvent, sont plutôt plus radicaux, en tout cas dans beaucoup de partis, que les élus. Donc, a priori, ça peut favoriser plutôt des gens qui font une offre, alors en l'occurrence, très pro-Brexit, très, très radicale sur ces questions. Mais encore faut-il évidemment que ces candidats-là arrivent à cette dernière étape, celle des deux derniers.
C'est vraiment le fond, les idées, les positions sur le Brexit et comment y parvenir qui vont jouer ou la personnalité même des candidats va beaucoup compter, parce que je pense à toutes ces polémiques en ce moment sur la consommation de drogue de plusieurs candidats qui défraient la chronique.
Bah, comme toujours, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'en ce moment, la classe politique est complètement obsédée par la question du Brexit. Et il y a une espèce de surenchère entre les candidats, à quelques exceptions près. Il y a une surenchère quand même générale sur le thème « avec moi, on sortira plus vite et plus facilement », même si c'est peu réaliste sur le fond. Et puis, bien sûr, oui, les personnalités jouent aussi. Celle de Boris Johnson, donc je vous disais, est assez populaire. Michael Gove, qui est un peu le même profil que lui, mais en plus sérieux, j'allais dire, est handicapé depuis 2 jours par cette histoire de cocaïne qui remontait à la surface. Il a avoué avoir pris de la cocaïne à plusieurs reprises il y a une vingtaine d'années, donc pas non plus quand il était adolescent, quoi. Donc ça pourrait effectivement affaiblir sa candidature. Donc oui, bien sûr, les personnalités jouent, et si plus elles jouent en faveur de Boris Johnson, je dirais.
Alors Boris Johnson, justement, ce serait quel type d'interlocuteur pour les Européens? Un homme plutôt coriace, ce week-end il a dit qu'il a menacé de ne pas payer la facture du Brexit, par exemple.
Oui, alors il faut distinguer le discours qui est extrêmement démagogique, il faut quand même dire les choses.
C'est un propos clairement. De campagne, en fait.
Voilà, qui est un discours de campagne, qui est fait pour faire plaisir à ces fameux 120 000 électeurs conservateurs qui devront les lire. Il y a une espèce de, il a un côté bravache et un côté où on dit tout et son contraire. L'important, c'est d'être provocateur et d'être entendu. Et puis il y a le fond qui, dans le cas de Boris Johnson, est vraiment très très léger. C'est quelqu'un qui n'a ni le sérieux ni les compétences pour être Premier ministre, ça c'est très clair, qui a été un ministre des Affaires étrangères catastrophique, et les Européens seraient atterrés de le retrouver comme interlocuteur à Bruxelles. Ça c'est évident. Cela dit, c'est pas eux qui choisissent, évidemment.
Alors, dernière question, Pauline Schnapper, il y a cette date du 31 octobre, la nouvelle date du Brexit, est-ce qu'elle peut être respectée, à votre avis?
C'est très difficile à dire. En gros, il y a deux possibilités, c'est-à-dire soit on a un nouveau Premier ministre qui est prêt à sortir sans accord, mais ça semble quand même extrêmement difficile puisque le Parlement a voté contre, c'est la seule chose sur laquelle il a voté clairement. Donc ça irait contre le Parlement. Soit, au point où on en est, on voit mal comment un accord vraiment différent pourrait être négocié d'ici le 31 octobre, puisqu'on n'aura pas de Premier ministre avant la fin juillet, qui aura ensuite la coupure estivale, et on ne voit pas comment en 2 mois, ce qui n'a pas été réglé en 3 ans pourrait l'être. Donc il n'est pas impossible que le Royaume-Uni demande une nouvelle fois un report, ou autre hypothèse, qui est un deuxième référendum. Tout reste encore ouvert.
Merci beaucoup, Pauline Schnapper, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous enseignez la civilisation britannique contemporaine à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle.